Le débat africain. Alain Foucault.
Il aura fallu la pandémie de Covid-19 avec les fermetures des frontières pour qu'enfin on s'intéresse à eux. Jusque-là, on les prenait pour des plaisantins ou au mieux des illuminés. Personne n'avait envie de parier ou de miser sur eux. Si oui, quelques rares mécènes, aussi fous qu'eux. Puis d'un coup, par leur inventivité, par leur technicité et leur adaptabilité, pour utiliser un terme dans le vent, ils ont prouvé aux yeux de tous leur génie, leur utilité, en proposant des solutions pratiques, moins coûteuses. Ils ont innové en apportant des solutions au moment où les fournisseurs traditionnels étaient absents, étaient tournés vers eux-mêmes. Des respirateurs, des sas désinfectants, des couveuses pour prématurés. Bref, un certain nombre d'objets dont nous avions besoin en urgence. Ça marche, et les populations et les autorités semblent enfin convaincus de leur génie. Ils existent enfin. Ils représentent désormais le « made in Africa ». Mais ont-ils un avenir sur le continent? Passé ce moment, croira-t-on encore en eux? Le grand public les a-t-il adoptés? Ont-ils gagné leur confiance? Les banques et les investisseurs sont-ils prêts à les accompagner? Peuvent-ils passer de l'artisanat à l'industrie? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain spécial « Made in Africa » enregistré au Mali en marge du Forum de Bamako, cadre de réflexion des intellectuels, universitaires et politiques sur les problématiques continentales. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs inventeurs primés ici et ailleurs, plusieurs scientifiques également. D'abord, Monsieur Muntagat Keita, le génie trouve tout guinéen qui a conçu, entre autres, une tablette, la tablette Health Scan, capable de détecter les symptômes de la Covid-19. Muntagat Keita est le patron de Tulip Industries. Il est également l'inventeur d'une borne de télémédecine permettant aux professionnels de santé d'ausculter les patients à distance. Ceci n'est qu'une partie de ses inventions. Je n'oublie pas les ordinateurs de bourg. Il a remporté la médaille d'or au 47e Salon international de Genève en Suisse. Et il est cité par plusieurs innovateurs africains à Kigali. Bonjour Muntagat Keita.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci de m'avoir.
Second invité de ce plateau, Serge Armel Njiju, le fondateur de Fab Lab IU Techno. Il est le champion de la lutte contre la mortalité infantile en fabriquant des couveuses néonatales interactives qui fonctionne même en cas de coupure électrique. Au sein de l'Agence universitaire pour l'innovation dans le climat de psychose de la Covid-19, il a créé le portique désinfectant au Cameroun, qui équipe désormais de nombreux édifices et administrations. Bonjour Serge Armel Djidjou.
Bonjour Monsieur Foucault.
Troisième invité de ce plateau, des inventeurs made in Africa, Chérif Aïdara, le patron d'Africa Solar, entrepreneur franco-malien en énergie solaire qui fabrique des lampes écologiques faites à partir d'éléments recyclés pour le Mali. Comme les deux autres invités, il a remporté de nombreux prix. Bonjour et merci d'être là, Chérif Aïdara.
Bonjour Alain.
Notre dernier invité est le docteur Savaye Nyumu, qui est chirurgien, membre fondateur de l'Académie francophone de télémédecine, expert à l'Union africaine en télémédecine et e-santé, et expert Union internationale de télécommunications. Bonjour et merci d'être là, docteur Savaye Nyomo.
Bonjour et merci.
Alors, sur ce plateau, on vous regarde un peu en se disant qui sont ces génies trouve-tout que l'on a amenés aujourd'hui. Je veux commencer par Muntagat Keita. On va d'abord savoir comment vous arrivez dans les inventions. Quelle est votre formation?
Alors d'abord, je suis juriste à Paris, 4 années de droit, Université Paris 5.
Ah, je ne m'attendais pas à ça.
Ah si. Ensuite, aux États-Unis, eh bien, j'étais banquier, voilà, pendant 10 ans, dans les plus grosses banques américaines, y compris Bank of America, SunTrust Bank, directeur de banque. Mais une fois arrivé en Guinée, eh bien, j'ai constaté qu'il y avait des lacunes. Et ce n'était pas au niveau de l'esprit, ce n'était pas au niveau de l'intelligence, c'est plutôt les équipements. Tout ce qu'on importait, ça n'allait pas, ça ne marchait pas, ce n'était pas adapté. Donc il fallait bien que quelqu'un invente. Et comme il n'y avait personne...
Vous vous êtes dit, je deviens le génie trouve-tout. Mais en même temps, quand on se dit, le bonhomme, c'est pas son domaine, les sciences. Comment il fait pour se retrouver en train de fabriquer autant de machines, autant de choses utiles au quotidien, notamment en domaine de la, dans le domaine de la médecine?
Alors, le cerveau humain est malléable. Le cerveau humain, tout ce que vous décidez de faire, vous pouvez le faire. Il suffit simplement, dans le passé, nous avions les bibliothèques. Eh bien, en Guinée, comme il n'y a pas de bibliothèque, il y a les réseaux sociaux, il y a Google, il y a YouTube, il y a les librairies en ligne. On peut s'auto-éduquer. Je me suis auto-éduqué tout seul avec les dessins 3D. Mm-hmm. Et c'est à partir de là que c'est parti. J'ai été autodidacte, je me suis formé. Eh bien, aujourd'hui, je suis là où je suis.
Et vous avez trouvé une équipe sur place, des jeunes qui soient capables de monter, par exemple, cet appareil qui peut détecter les symptômes de la Covid-19.
Au début, absolument pas. Alors, ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, j'ai dû leur transmettre. La courbe d'apprentissage était terrible, je dirais, au départ. 6 mois, 1 an. Mais là, c'est parti. De 2018, en ce moment, on a pu maintenant réaliser. Et l'équipe est prête. On a bougé de 2 employés à 74 employés aujourd'hui.
74. Oui. Tous guinéens ou bien vous avez fait venir des expats ?
Tous guinéens. Nous avons décidé de vraiment fabriquer les choses localement, d'avoir cette fierté. Parce que si on inclut une personne qui arrive de l'étranger, on dirait c'est la personne qui est venue de l'étranger qui les a enseignés. Alors j'ai recruté uniquement dans les universités guinéennes. Gamal Abdel Nasser, l'université de Symphonia, d'autres universités à côté. Chaque année, ils m'envoient des stagiaires et nous piochons dedans.
Excusez-moi. J'ai envie de satisfaire une curiosité. Comment quelqu'un qui est juriste se retrouve en train de fabriquer une borne de télémédecine qui permet aux professionnels de santé d'ausculter des patients à distance?
Alors, c'est très simple. En Afrique, nous grandissons avec des rêves, mais la famille décide autrement pour vous. Je suis né ingénieur, mais la famille avait décidé autrement. Toi, tu seras médecin, toi, tu seras avocat. Tout était distribué dans la famille, entre nous.
Donc, alors, avant ça, vous faisiez déjà des choses, vous inventiez des
choses? Eh bien, avant ça, j'inventais. Depuis l'âge de 5 ans, je bricole avec la radio de papa ou bien la télé. J'ai démonté tout ce qui était dans la maison. À Paris, j'étais tout le temps à la bibliothèque des sciences de la Villette. C'était ma mecque, cette bibliothèque.
Mais donc, c'était une obligation de faire juriste.
Ah oui, il fallait être avocat pour la famille, hein, sinon ça n'allait pas. Alors, j'ai rempli toutes mes obligations. Voilà. Ensuite, maintenant, je vis mes rêves.
Et ça marche?
Très bien.
Bien. On va revenir à la confiance que peut accorder l'État ou pas à vous autres inventeurs qui arrivez dans un environnement où on ne vous attendait pas. Je suppose que Serge Armel Djidjou, vous aussi, lorsque vous disiez « je suis chercheur », on dit « oui, cherche toujours ».
Oui, bien sûr, bien sûr. Et dans mon cas d'ailleurs, je suis informaticien à la base, donc je suis rentré à l'université, je regardais plutôt le système d'information, gestion des notes, des choses comme ça. Donc j'étais loin. J'étais même pas dans le périmètre technologique en tant que tel. Mais j'étais spectateur, parce qu'étant à l'université, du fait que les gens faisaient des soutenances extraordinaires, faisaient des prototypes dans les labos que je pouvais voir. Et j'étais scandalisé de voir que jamais, il n'y avait même pas un contre-exemple de quelque chose qu'on a élaboré à l'université et qui devenait un produit de consommation. Donc, c'est une frustration que j'ai traînée comme ça. J'ai eu la chance d'avoir une bonne carrière à l'université. J'ai été directeur de la planification, directeur de la coopération. Mais malgré ces fonctions, j'ai pas pu mettre sur la table de manière suffisamment puissante un agenda qui fasse que de l'intérieur de l'université, on convertisse ces prototypes. C'est comme ça.
C'est-à-dire que c'était de la théorie, jamais quelque chose de pratique ne sortait.
C'était toujours des débats, c'était toujours des discours. À Tchang, quand même, à mon université, on a fait des tentatives. Oui, on a fait des tentatives, on a fait une entreprise universitaire, mais sans qu'on en sorte quelque chose de concret. Donc, j'ai voulu à un moment donné sortir de cette frustration pour essayer. J'avoue que je ne me suis pas lancé avec des certitudes. Je me suis juste dit, c'est quand même anormal. Donc, plutôt que de bavarder, on va essayer. On va essayer pour voir où est-ce que ça coince réellement. Donc, en fait, je fais de la recherche expérimentale. Je ne suis pas un businessman type. Je suis quelqu'un qui vient du milieu universitaire, qui veut trouver un business model qui permette qu'en Afrique, concrètement, on fabrique. Et je me heurte dans les difficultés, je cherche des solutions. Ma satisfaction serait peut-être d'avoir déblayé un chemin. Ne serait-ce qu'un itinéraire intellectuel.
Alors, quelqu'un comme vous qui se retrouve en train de... Qu'est-ce qui vous amène à la couveuse électrique, la couveuse néonatale qui fonctionne à l'électricité, enfin, qui peut fonctionner sans électricité?
Alors, je vais rebondir d'ailleurs sur l'interrogation que vous avez pour mon ami Keta. Il faut savoir que quand on est dans la position d'inventeur, on ne fabrique pas tout au détail. Parce que si vous êtes dans la perspective de penser que si on a fabriqué une couveuse, c'est qu'on l'a fait tout seul, comme un enfant qui fait le truc à la maison, c'est pas ça. L'inventeur, c'est celui qui a la pertinence de détecter le problème, d'avoir l'idée la plus globale et d'identifier les talents avec qui il va mettre en place. Donc, dans le cas de la couveuse, ben, les couveuses, ça se fabrique depuis toujours.
Mais pas chez nous. Elles viennent toujours
d'ailleurs. Oui, elles viennent toujours d'ailleurs. Et même, il fallait pas juste répliquer les couveuses qui viennent d'ailleurs. Au risque de tomber dans le même problème. Il fallait avoir la hauteur d'esprit de se dire, mais quel est le problème, quelle est l'originalité, par quel chemin. Parce que si on parle de la couveuse néonatale interactive, c'est pour des attributs spécifiques que nous avons donnés à cette couveuse. Le génie, c'est d'y avoir pensé.
Alors, c'est quoi sa particularité?
Parce qu'il faut que les gens qui nous regardent ou nous écoutent comprennent. Sa particularité, c'est de défier l'indigence énergétique.
Oui, c'est-à-dire que généralement, il y a des gosses dans les hôpitaux où on les place dans les peu de couveuses qu'il y a, qui meurent parce qu'il y a des délestages, par exemple.
Il y a des délestages, il y a des baisses de tension. Il y a des va-et-vient. Mm-hmm. Et comme la couveuse, c'est fondamentalement une régulation électronique mm-hmm. d'une enceinte, mais les cartes électroniques, elles plantent où elles foirent.
Voilà.
Et puis, les gens sont trop loin, on n'a pas la carte, ça vient de Chine, d'Inde, mm-hmm. et tout ça.
Il faut des mois et des mois pour que la couveuse refonctionne.
Parfois, ça ne fonctionne jamais.
Ouais.
Il y a pénurie de couveuses, mais je peux vous dire qu'il y a tellement de couveuses au rebut. Donc nous, on a tout de suite compris, c'est ça la créativité, qu'il faut une couveuse qui est résiliente d'abord aux fluctuations énergétiques et qu'en cas de coupure, elle puisse rester assez longtemps, le temps que le courant revienne. Et même que dans des endroits où il n'y a pas de courant du tout, que ça puisse fonctionner au solaire. L'autre problématique qu'on a résolue et qui fait la particularité de cette couveuse, c'est l'interactivité qu'on a introduite. Vous savez, chez nous, il y a peu de pédopédiatres. Donc, vous avez quelqu'un qui doit gérer 10 couveuses. La couveuse est connectée à son smartphone. Ça, c'est original. Ça veut dire que...
Au smartphone du
médecin.
Voilà.
Ça veut dire que, ben, il est au marché, il est je sais pas où, il peut, par curiosité, savoir l'état des couveuses. Et si on l'appelle pour lui dire qu'il y a une situation, il peut déclencher une vidéo pour voir qu'il y a une détresse respiratoire et donner les consignes appropriées. Donc, cette interactivité... Et puis, autre chose que nous avons découvert, hein, chemin faisant, je n'y pensais même pas au départ, mais pour les parents, c'est extraordinaire. Il y a une déconnexion quand vous faites un bébé prématuré. Parce que le bébé doit être dans une enceinte. Donc, oui. L'accès n'est pas
facile. On n'a pas le droit d'y entrer.
Bon, pour l'Africain, mm-hmm. avoir la possibilité de voir sur le smartphone maintenant le bébé qui est en couveuse, ça crée une connexion inattendue. Mm-hmm. Et puis pour nous, les fabricants, cette interactivité, c'est du pain béni. Mm-hmm. Ça nous permet de faire la maintenance préventive, de voir ce qui se passe et d'imaginer de nouveaux modèles économiques. Vous imaginez bien qu'une couveuse connectée, je peux facturer à l'usage. Je peux facturer à tempérament, puisque je peux orienter le déclenchement de son pension.
Vous disiez que vous n'étiez pas un businessman, mais vous y pensez quand même, c'est déjà pas mal. Alors, je me tourne vers vous. Vous, dans votre cas, j'ai envie de comprendre. Vous êtes en France, vous travaillez en France, et vous décidez que, bon, voilà, je vais aller au pays, je vais aller au Mali, je vais faire des lampes, on va dire des lampes écologiques. Au Mali, avec des objets recyclés. Ça vient comment? Quelle est votre formation à vous?
Ben en fait, moi, c'est assez atypique. En fait. J'ai fait une école de commerce, en fait.
Décidément, il n'y a pas de technicien, au départ.
Exact. mais avant de faire l'école de commerce, moi, j'ai fait une bonne partie de ma vie, en fait, en Chine. Mon père était diplomate à l'ambassade du Mali en Chine.
Donc, comme de 98... Kaga Keita et vous étiez en Chine alors.
Ah excellent. De 98 en 2003. Donc depuis très longtemps en fait, moi j'étais dans la commercialisation, dans la fabrication des produits. Notamment j'ai vu en Chine comment ça fonctionnait. Donc quand je suis rentré en France, donc j'ai commencé donc du coup responsable commercial pour des groupes, agents commerciaux. Et donc ça me plaisait. Mais ce que je me suis rendu compte qu'en rentrant au Mali, qu'il y avait vraiment un constat qui a été fait, c'était des coupures de courant tout le temps, des délestages. Suite à ce constat, en fait, lorsque je suis rentré en France, j'ai commencé à mettre en place un projet qui était de fabriquer des lanternes solaires, mais en Chine, dans un premier temps. Parce que la Chine avait le potentiel. Le seul inconvénient de ces produits, c'est que c'était des produits non recyclés. C'était du polypropylène. C'était des produits fabriqués en Chine. Donc, il n'y avait pas de valeur ajoutée. Par contre, je me suis fait vraiment un réseau de distribution, on va dire. Donc, j'ai vraiment commercialisé un certain nombre de volumes à la diaspora. Donc, la diaspora africaine qui est basée en Europe, France, etc. Via des e-commerce aussi. Donc, après, je me suis dit, pourquoi pas créer de la valeur ajoutée? Dans ce cas-là, il faut créer quelque chose localement. Pour le faire, il faut se... Donc, j'avais l'expertise pour la création. Vu que je suis venu en Chine, j'ai vu comment créer. Donc, pareil, j'ai appris sur le terrain. Donc, Internet, des amis qui ont... Et puis, j'ai fait une formation dans les énergies renouvelables et qui m'a permis d'avoir, on va dire, une expérience. Et donc, je suis rentré... je suis reparti en Chine, donc, du coup, de chercher des composants électroniques. Que j'ai repris quelques-uns. Au départ, j'ai commencé avec 10 000 euros. C'était vraiment rien du tout. Je suis rentré avec ces composants électroniques au Mali et j'ai commencé à assembler avec des amis, notamment multiculturels, hein, mauritaniens. C'était pas forcément des Maliens, pour essayer d'avoir une lanterne solaire. Mais l'avantage qu'on avait, c'était des produits recyclés. Donc, du coup, on est parti sur un produit local. Le Mali, il y a le bois, le bambou. Donc, c'était de combiner un peu un produit local. Comme il disait, d'avoir une valeur ajoutée locale. Parce que c'est bien de lanterne solaire, mais si c'était avoir une touche locale, c'était encore mieux. Mm-hmm. Donc du coup, on a vu des chutes de bois qu'on a pu récupérer. Donc on a pu rassembler avec les composants électroniques. On a réussi à avoir des lanternes solaires avec des pots de confiture, des pots de mayonnaise, mayonnaise calvée, c'est des produits qu'on trouve énormément au Mali. Donc on a assemblé avec les couvercles, mais rien du tout, c'est avec peanuts. On a vraiment essayé, donc nettoyer, recycler, assembler. Donc du coup après on a retravaillé sur le packaging, tous ces process de commercialisation pour pouvoir le commercialiser. Donc
vraiment, vous avez trouvé des gens sur place qui avaient la qualification pour
du
le
tout.
Faire
au départ? Non, rien du tout. Non, c'était vraiment la difficulté que j'avais, et jusqu'à présent c'est pas aussi facile, mais c'est vrai que à force de on a eu des personnes qui ont été formées, clairement, qui ont suivi des formations. Donc, on a eu des accompagnements en tant que jeune entreprise. Et on a des personnes qui ont compris le process, entre notre process de fabrication, de A à Z, jusqu'à l'assemblage et jusqu'à la commercialisation. Mmh. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est plus facile. Mais au départ, on a mis quelques années avant d'arriver à ça, en fait. Mmh.
Mais ça marche aujourd'hui.
Ça marche. Ça marche. Et on est fonctionnel, exactement.
Et les Maliens vous font confiance.
Exact.
Voilà. Exact. Là, je me tourne vers celui qui n'est pas le géo, trouve tout de ce plateau, mais qui est dans un domaine où, lorsqu'on entend parler de ça, on se dit c'est l'affaire des grands médecins, c'est les grandes cliniques d'Europe qui peuvent travailler dessus. La question de la télémédecine, vous êtes dans la télémédecine, vous êtes un peu vu comme le pape de la télémédecine ici en Afrique. Comment vous vous retrouvez dans la télémédecine?
Alors ça a été un peu comme un hasard, mm-hmm. parce que comme vous l'avez dit, moi je suis chirurgien et j'ai exercé à Paris dans des grands hôpitaux, particulier Saint-Joseph, l'hôpital américain, l'hôpital européen de Paris. Donc ce sont des endroits où je travaillais comme chirurgien. Je faisais beaucoup de microchirurgie et de l'urologie et tout ça. Mais les Africains me sollicitaient énormément. Les ambassades, les gouvernements, ils me sollicitaient pour des patients qui sont en France ou qui doivent se soigner en France, en Allemagne ou ailleurs. Et finalement, je m'occupais de ces patients et je me rendais compte qu'il y avait trop d'informations qui manquaient. Le médecin, il m'a envoyé, quand je lis jusqu'au bout, je me dis, mais de quoi il parle? Je comprends rien. Et je ne peux pas joindre le médecin. Alors j'ai attrapé quelques informations. Je dis, vous êtes tout le temps en train de parler, d'aller vous promener sur la lune. Moi, je veux des choses concrètes. Je veux que quand mon collègue là, il m'envoie un patient, s'il ne me donne pas l'information qu'il faut, ça ne passe pas. Il me dit, qu'est-ce que je veux? Je dis, si vous avez le temps, on le fait. Et on a créé en 2001 le premier DMP, dossier patient médical et partagé. Ce qu'en France, ils essayent de faire jusqu'à aujourd'hui. Et quand on l'a mis en place, à partir de 2003... Vous pouviez être au Mali, vous regardez toutes les radios de votre patient qui est traité à l'hôpital américain.
Ah oui?
Directement. Vous dites, ah non, ne prescrivez pas ce médicament parce que nous, on ne l'a pas au Mali. Des choses comme ça. Donc, on partageait déjà à l'époque...
On créait un pont parce que généralement, ce pont-là, il n'existe pas.
Tout à fait, ça n'existe pas. On a créé ça. Ça a fait que les Français sont venus me chercher. Ah non, non, nous, on veut faire le DMP. Tu dois faire partie de la commission Galien. C'est la commission nationale de réglementation de la télémédecine. Je dis, non, 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 je ne veux pas. Moi, je veux travailler avec l'Afrique. On m'a dit, ah non, mais tu n'arriveras jamais, c'est la brousse là-bas.
Il n'y a pas d'électricité. Et puis...
C'est comme ça que j'ai fait partie de la commission galienne, mais je les ai laissés. Je dis, membre non permanent, je ne veux pas être permanent. Mais en 2003, je me suis retrouvé confronté à d'autres problèmes. Je recevais des patients, on opère du cœur, et ce patient-là, je ne peux pas le renvoyer dans son pays, parce que j'ai besoin d'un électrocardiogramme tous les jours ou tous les deux jours. Et dans son pays, c'est 3 semaines le rendez-vous. Et après, c'est un long monopiste qu'on ne peut pas photocopier, qu'on ne peut rien en faire. Et je suis obligé de les garder à Paris 2 mois pour un examen qui coûte 2 euros.
Ouais.
Alors, j'ai dit non, ça ne peut pas continuer. Je suis allé jusqu'à Montpellier voir l'université, la fac, où ils surveillaient tous les pacemakers qui sont posés en France. De là-bas, ils les surveillaient. Je dis, bon, écoutez, moi, j'en ai marre. Je veux un électrocardiogramme, quelque chose qui me donne les informations que je veux, quel que soit l'endroit où est le patient. Ah oui, mais c'est compliqué. Et puis, de toute façon, je dis, ça ne vous regarde pas. Moi, je le veux. Vous êtes toujours en train de définir nos besoins pour nous. Laissez-nous définir. Je le veux. Vous pouvez le faire ou vous ne pouvez pas le faire. C'est tout ce que je pose comme question. Ah oui, c'est possible. Je dis, bon, allez, on y va. Et j'ai créé un appareil de télésurveillance cardiaque. Et à l'époque, je pouvais le donner au patient. Il rentre au Burkina n'importe où. Tous les matins, à se lever, il appuie sur le... Si c'est vert, c'est bon. Si c'est rouge... C'est mauvais, il recommence. Et quand il le faisait, j'avais l'électrocardiogramme sur mon bureau. Le cardiologue l'avait sur son téléphone et on pouvait discuter et changer son traitement ou réorganiser.
Un vrai pont, c'est-à-dire qu'il est à distance, mais on peut voir ce qui se passe. Comme le temps tourne vite, on va en parler dans la seconde partie du débat. On se retrouve donc dans une dizaine de minutes, juste après le journal, pour en parler, docteur. Vous allez pouvoir mieux l'expliquer. Restez à l'écoute. Et on se retrouve très vite, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À vite.
Le débat africain, Alain Foucault.
Ils font certainement partie des métiers, des secteurs d'activité que la pandémie de la Covid-19 aura révélé aux yeux du monde. Jusque-là, ils rasaient presque les murs. C'est à peine qu'ils osaient dire leur métier en public, parce qu'on les considérait en Afrique en particulier, au mieux comme des illuminés, mais le plus souvent comme des ratés. Les solutions locales qu'ils ont apportées pendant cette période de fermeture des frontières, des ruptures d'approvisionnement, ont mis en lumière leur rôle et leur génie. Les inventeurs africains qui ont brillé par leur aptitude, par leur capacité à répondre à de nombreux manques semblent désormais plus pris au sérieux sur le continent. Ils représentent désormais de plus en plus, fièrement, ce que l'on pourrait appeler le « Made in Africa », à condition que les autorités, les dirigeants, leur fassent enfin confiance et que les investisseurs, les financiers, les accompagnent. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain enregistré en marge du Forum de Bamako, qui accueille aujourd'hui ici au Mali plusieurs inventeurs subsahariens. D'abord, Chérif Haïdara, entrepreneur franco-malien en énergie solaire, fondateur d'Africa Solar. Notre second invité est Serge Armel Njidjou, fondateur de Fab Lab AUI Techno et concepteur d'une couveuse connectée 100% made in Cameroun. Notre troisième inventeur est Muntaga Keita, fondateur de Tulip Industries, une entreprise spécialisée dans l'innovation technologique. Quatrième invité, Dr Savaye Nyumu, chirurgien, membre fondateur de l'Académie francophone de télémédecine, expert Union africaine en télémédecine et e-santé. Voilà pour notre plateau. Alors Dr Savaye Nyumu, à la fin de la première partie, vous nous parliez de votre travail à l'international, notamment le dispositif de télémédecine que vous proposez au Burkina Faso. Donc là, vous vous retrouvez en train de faire de la télémédecine.
Oui.
À distance, est-ce que vous avez pensé à revenir en Afrique ou bien vous continuez d'exercer sur place en France?
Ah non, tout ce que je fais actuellement, c'est sur l'Afrique que j'ai donné des bourses à des étudiants pour aller faire la plus célèbre. C'était, je lui ai dit, il faut m'étudier le comportement de l'image médicale dans tous les canaux sans fil. Parce que l'image médicale, quand elle sort de l'IRM, du scanner et autres, elle a un format, il faut m'étudier son comportement quand on l'envoie dans d'autres canaux. Et bon, les Français me sont tombés dessus comme c'est pas permis. Mais quand il a fini, il est maintenant chercheur pour le Canada. Il avait toutes les universités américaines qui le voulaient parce qu'on a montré que il fallait le coder autrement. Et toutes ces solutions, c'est pour l'Afrique. Et toutes mes solutions, quand j'ai inventé la valise de diagnostic à distance, là où je l'ai proposée, c'est en Afrique. Donc il y en a dans différents pays où ils circulent. Elle est indépendante. Vous allez où vous voulez, vous faites un bilan complet. Sang, urine, échographie, électrocardiogramme, électroencéphalogramme, tout ce que vous voulez, en fonction de votre situation.
De votre situation.
C'est plus en Afrique que je le fais.
Généralement, quand on est content de vous avoir là, hein, on est content de savoir qu'il peut y avoir du made in Africa et que, en science, on n'est pas mauvais puisqu'on avait fini par nous le faire croire. Alors, mais est-ce que vous avez gagné la confiance sur le continent?
Alors, c'est oui et non en même temps. On n'est jamais prophète chez soi. Je suis plus connu à l'extérieur qu'à l'intérieur.
En Guinée.
En Guinée, je suis beaucoup plus connu à travers les réseaux sociaux par les jeunes qui fréquentent les réseaux sociaux. Au niveau de l'administration, au niveau des personnes beaucoup plus âgées, bien sûr, certains ont vu à la télé, mais pas vraiment connu.
Mais comment ça s'explique? Ils n'ont pas vu votre produit? Il est quand même concret.
Le produit est très concret. C'est utilisé dans le plus grand hôpital de la Guinée aujourd'hui, avec l'équipe de professeur Soa en infectiologie. Eh bien, ils ne s'y intéressent pas.
Le health scan dont on parle n'est pas utilisé par d'autres sur place?
Sur place, non. Mais c'est utilisé par le grand hôpital, oui. Et là aussi, on a dû faire du forcing pour que ça soit utilisé, alors qu'il n'y a aucun autre matériel qui approchait cette technologie. Mais par contre, à l'extérieur, la demande, elle est énorme. Nous sommes aujourd'hui dans 23 pays d'Afrique et nous sommes reçus en rang de ministre.
Dans votre cas,
Il y a l'homme de la rue, il y a les Africains qui se saisissent de voir qu'on essaie de faire quelque chose, qui nous adopte. On est très populaire sur les réseaux sociaux.
C'est drôle, c'est toujours sur les réseaux
voilà,
sociaux.
Voilà, on est chouchou des médias. Les utilisateurs, les bénéficiaires potentiels sont très contents. Mais les décideurs ont probablement d'autres grilles de lecture. C'est-à-dire ceux qui peuvent passer la commande ne sont pas forcément préoccupés nécessairement seulement par l'utilité. Ils ont d'autres paramètres peut-être que nous ne maîtrisons pas encore.
Parlez très concrètement. C'est-à-dire que vous ne leur permettez pas de faire du business, c'est ça?
Peut-être c'est ce qu'ils pensent. Et de mon point de vue, c'est un déficit d'imagination. Si le fait que, parce que je pense qu'il y a un peu de ça, il y a l'idée que voilà, si on achète les couveuses de AUI, tout le monde peut voir le prix,
voilà,
puisque c'est fabriqué sur place, et donc on peut pas le vendre 4-5 fois plus cher. Pourtant, il y a toute une dimension service. Il y a toute une ingénierie qui peut se mettre en place.
Et puis, c'est du made local, voilà, c'est du made in Africa. Donc, normalement, ça crée des emplois.
Tout à fait.
Ça crée des emplois et puis, on n'a plus besoin
donc,
de faire
sortir. Donc, le grand public le perçoit comme ça, mais dans mon cas, je suis quand même fier d'avoir eu lever quand même les leviers d'homologation, d'autorisation, ainsi de suite. C'est pas gagné d'avance, chez nous.
C'est une bataille.
C'est une bataille. Donc, je sais, grosse autorité politique, de m'avoir au moins accordé ça. Maintenant, pour la commande publique, on attend.
Toujours pas de commande publique dans votre cas, mais également à
j'ai
l'extérieur.
J'ai quelques commandes, mais je vais dire proportionnellement.
Alors, vous gagnez beaucoup de prix,
voilà,
et que
ça... À l'étranger, c'est très demandé. Et la difficulté que j'ai intellectuellement, j'en discutais avec Eta, qui est plus avancé sur ce travail. Je suis parti avec l'idée qu'il ne faut pas exporter mes produits, qu'il faut exporter la technologie. Je pense que les Africains partout ont la capacité. Et quand je vois les problèmes logistiques, mon business model, c'est de dire je viens à Bamako, je trouve des Maliens, on crée une unité. Je veux plutôt faire un atelier en réseau. Donc ça prend plus de temps. J'ai besoin de lever des fonds pour m'installer.
On va parler des fonds dans un instant, mais déjà, est-ce que les connexions sont faites entre vous, les techniciens, vous, les inventeurs, de plus en plus? Est-ce que ces forats, ces réseaux sociaux permettent ces connexions-là?
Alors là, parfaitement. Monsieur Armel qui est là, nous nous sommes déjà vus au Congo. C'était une surprise de le revoir.
Ici à Bamako.
Nous avons créé une autre connexion là, par là aussi. Alors c'est toute une république secrète de scientifiques qui se créent en ce moment. Le réseautage est énorme.
Mais c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Vous, ici au Mali, est-ce que les autorités vous accompagnent? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes moins vu comme le petit gars qui s'éclate dans son arrière-garage?
Moi, je travaille beaucoup avec la diaspora. Et c'est vrai que également avec les ONG, principalement, qui font des commandes pour les villages. On a fait des projets, par exemple, la tournée du soleil, où on a donné des lanternes solaires, en fait, à des écoles, qui vont leur donner à des enfants pour pouvoir étudier le soir dans des villages. Donc, c'est des projets vraiment à l'impact social.
Absolument.
Donc, qui sont financés donc automatiquement par les ONG. Donc, on a moins de relations avec le public, on va dire. Donc, voilà. Clairement, je ne travaille pas avec le gouvernement.
C'est mon cas.
Clairement.
Vous ne travaillez pas avec le gouvernement.
80% des couveuses que j'ai vendues ont été achetées par des associations. Souvent de la diaspora, parfois au pays. Mais c'est toujours des dons, une association qui décide. On va donner une couveuse comme action sociale et qui vient me solliciter. Le gros du marché, c'est ça.
Mais comment expliquer que les autorités aient autant de mal à reconnaître des gens qui fabriquent localement?
Dans mon cas, c'est récent. Donc j'arrive à me dire que peut-être le Covid a bloqué
mais je crois plutôt,
de la
je croyais plutôt que le Covid a été
non, dans le cadre de la couveuse. Dans le cadre de la couveuse.
Dans le cadre de la couveuse.
Le milieu de santé était quand même mobilisé. Donc, je leur fais l'excuse de penser que, après avoir accordé les agréments, ils ont peut-être dû se mobiliser.
Mais
et
vous
que
avez
les choses vont déclencher.
Vous avez eu cet appareil qui permet de
j'ai fait des sas de désinfection.
Des sas de désinfection.
J'ai fait des fumigateurs aussi pour des espaces. Alors, ça m'a introduit plutôt chez les corporates. C'est-à-dire que.
Les grandes entreprises.
Les grandes entreprises, les institutionnels, qui avaient besoin d'afficher clairement qui font ce qu'il faut pour les mesures barrières.
Oui, mais là, on a envie de donner de l'électricité dans les campagnes, de permettre aux enfants de pouvoir apprendre le soir. Comment est-ce possible que les autorités maliennes n'aient pas pris contact avec vous?
Je n'ai pas de réponse à te donner par rapport à ça, clairement. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé, je travaille beaucoup avec l'extérieur, la diaspora. Je travaille à l'international. Je suis plus connu à l'extérieur qu'à l'intérieur, en fait, du Mali.
Oui, mais Chérif Haïdara, vous êtes franco-malien, certes, mais malien.
Exactement.
Ici, il n'y a personne qui soit venu parmi les autorités dire on peut faire ceci dans tel village ou dans tel autre village.
Du tout.
Est-ce que vous en avez fait la démarche?
J'ai fait la démarche, même à l'inverse. Parce qu'en fait, c'est vrai que la structure, on est plusieurs actionnaires, en fait. Donc, ce que j'avais compris, parce que c'est vrai qu'avec l'histoire, enfin, avec le temps, j'ai compris plein de choses. Moi, au départ, ça fait depuis 2011 que j'avais cette idée-là. J'étais venu pour la mettre en place, j'étais encore plus jeune. Quand je suis venu, personne ne m'a écouté, clairement. Ce que j'ai décidé, c'est de rentrer en France et donc de voir avec mes associés, donc un Français, de revenir avec lui. Et ça va changer la donne, de rencontrer
Donc quand on voit le blanc devant, on se dit, ah, ça doit être bon.
Ça a changé la donne. En tout cas, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes.
Mon Dieu.
Il y avait un avantage d'avoir quelqu'un d'ancien,
c'est quand même
âgé,
grave, en 2020,
âgé quand
2021.
Même.
Donc, vous qui êtes dans la télémédecine, est-ce que vous êtes sollicité pour venir travailler sur place? Est-ce que vous avez des contacts avec les autorités? Vous êtes par exemple du Burkina. Est-ce que vous avez des contacts avec les autorités du Burkina pour que vous apportiez votre science?
Je vais vous raconter une anecdote qui vérifie ce qu'il a dit. En 2007, je suis allé au Burkina. J'ai fait un réseau. On était 5, 3 ingénieurs, une spécialiste en communication et moi. On a fait 2800 km dans le pays. Aller voir tous les endroits où il y avait un système médical. Et j'ai proposé un système complet. J'ai donné mes valises gratuitement. 2007, ils n'ont pas pris.
En 2007?
Oui. J'ai réuni tout le monde, les ministres et autres. Ah, c'est vraiment bien. Ils n'ont pas pris, ils n'ont rien fait. En 2008, j'invite le directeur général de la médecine hospitalière à Düsseldorf, la Mecque de la technologie médicale. À l'époque, je savais qu'il y a le congrès annuel des astronautes et de tous les médecins qui s'occupent des astronautes, de les tester, de les recruter et tout ça. Et le directeur général, qui est un professeur allemand, c'est un ami, il m'a dit, écoute, cette fois-ci, il faut que tu viennes. Donc je l'ai invité et je l'ai amené à cette réunion. Le professeur Rupers, bon, c'est vrai que quand il parle, lui en tant que médecin ne comprenait rien. Parce que le cerveau, quand il va là-bas, son poids est multiplié par 7. Rupers me dit, il dit à tout le monde, j'ai demandé à quelqu'un de venir ici. Moi, quand un astronaute est là-haut, que j'ai besoin de lui faire un examen de sang, si je dis 3 millions d'euros, on me donne les 3 millions d'euros. Et je lui fais une simple goutte épaisse. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui fait plus loin que ce que je fais et qui a le culot de vouloir en faire du business. Docteur Nimousayave, pouvez-vous nous expliquer? Quand je me suis levé, le directeur de la médecine hospitalière, il a été sidéré. Et quand je finis, il dit, alors c'est vrai, nul n'est prophète chez soi. Toi, tu es à ce niveau-là. Ça fait 4 ans que tu nous parles. On ne t'écoute pas.
Et jusqu'à aujourd'hui, on vous a toujours pas écouté.
Ils font la bagarre entre eux. Hein? On n'écoute pas. Mais
donc, alors, concrètement, aujourd'hui au Burkina, est-ce que vous avez un contact avec les autorités? Est-ce que vous travaillez
avec les autorités? J'ai un contact avec les autorités, mais je ne parle plus de télémédecine. Ils savent. Ils le savent. La dernière
mais
fois,
ça s'explique
il n'y a,
comment...
a pas longtemps, il voulait organiser un événement national. Et puis les gens de Télécom m'ont appelé pour demander si je pouvais une conférence. Mais quand j'ai commencé, après ils disent, mais on n'était pas au courant de tout ça. Mais ça y est dans vos archives. Tout est écrit, tout est posé là-bas.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui, d'après vous, explique le fait qu'ils n'utilisent pas vos compétences?
Alors, ce qu'il a dit, je le rejoins. Nul n'est prophète chez soi. Moi, on m'appelle au Zimbabwe, on m'appelle en réalité, plusieurs endroits pour venir aider.
Il va falloir à un moment que quelqu'un soit prophète chez lui quand même.
Pour venir aider le ministère à mettre en place sa stratégie de télésanté. Et je fais l'expertise de ce qu'il y a. Et je propose les solutions. Parce que dans le domaine de télémédecine, ce qui embrouille les ministères, ça existe aussi. C'est une jungle. En matière de normes, en matière de standards, c'est une jungle. On ne sait jamais quelles normes prendre. Et les ministères sont embrouillés. Et moi, je les ai mis en place. Quand il s'est, pour régler une solution ponctuelle, un centre médical ou un hôpital, je leur propose des solutions pour le
Alors,
faire.
Alors, on va suivre votre cas parce que c'est quand même grave si les compétences qui existent, on ne peut pas les utiliser. Peut-être voulu, mais on lit les gouvernements au moment où on enregistre cette situation. C'est le business. On a le sentiment, vous qui inventez, vous ne savez pas la question business. Qu'on va toujours... Vous qui avez le business, vous avez été vous-même. Est-ce qu'on peut passer de l'artisanat, de la petite affaire à l'industrie?
Artisanat, industrie. Je suis l'industrie comme on en soudeur. Aujourd'hui, 74.
Mais est-ce que les banquiers vous suivent?
Je ne veux pas donc travailler aujourd'hui avec les institutions internationales qui passent des commandes et les commandes sont.
Oui, mais vous allez
larges.
Vous faire manger bientôt.
Pas du tout. Je passe dans la liste posée pour les
petits deals.
Là, heureusement, là. Certaines grosses banques d'investissement au niveau international, donc au Moyen-Orient, qui essayent de rentrer dans le capital.
Et vous allez ouvrir la porte?
Là, oui, parce que c'est substantiel quand même.
D'accord. Serge Armel Dudjou, dans votre cas aussi, vous avez besoin de grossir, que les banques vous suivent.
Alors, on a affaire aux banques classiques qui ont des taux d'intérêt que
prohibitifs.
Les processus d'innovation ne peuvent pas digérer. Mm-hmm. Donc, on va aller de crowdfunding, des moyens
alternatifs. Il faut expliquer ce que c'est, c'est-à-dire...
Oui, c'est-à-dire que... on va
lever juste... des fonds sur les réseaux
maintenant
sociaux.
Maintenant qu'on a une certaine notoriété, maintenant que tout le monde sait ce qu'on fait et que ce qu'on fait est bien et portable, c'est clair que l'horizon qui peut permettre que ce que nous faisons soit soutenable, ça doit être de l'Afrique.
Mais quand on vous écoute, on a le sentiment que l'entreprise, c'est bien gentil, vous avez des solutions, mais qu'à terme... Vous ne serez plus patron de votre boîte, que ce ne sera plus du Made in Africa, que d'autres vont venir vous racheter. Hein. Quand on écoute généralement
quand nous disons modèles économiques. Modèles de financement alternatif, comme le crowdfunding, c'est-à-dire c'est l'appel à la.
On ne lève pas bout de fond avec ça quand même. Hein.
Oui.
Ça reste quand même assez limité.
Tout à fait, mais il faut avoir un certain volume pour aller vers. En fait, c'est par palier que ça fonctionne. Aujourd'hui, je veux 3 millions de dollars. C'est vrai, mais si je les avais, ce serait bien structuré pour aller tel à la BAT, demander plus.
Oui, mais la BAT ne vous prêtera pas de l'argent comme ça facilement, non?
Il faut déjà que j'ai la taille qui me permet de discuter avec la BAT.
Donc comment faire ça? Est-ce que vous ne devez pas être accompagné, et là je me tourne vers Adara, est-ce que vous ne devez pas être accompagné aussi des financiers, des gens qui vous disent voici le modèle qu'il faut mettre en place, parce qu'à force on va toujours pleurer et d'autres vont venir récupérer ce que vous avez fabriqué.
C'est hyper important d'avoir des financiers avec soi. Mais moi, je voulais revenir, avant de répondre à ça, à la question précédente. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu des prêts bancaires que j'ai refusés. J'ai la chance d'avoir des prêts bancaires à l'international à des taux considérablement bas. Aujourd'hui, un prêt bancaire à 9% au Mali, alors que j'ai des taux à moins de 1%
en France.
Je ne vais même pas réfléchir à deux fois. Donc clairement, par rapport à ce paramètre-là, je suis autonome sur ce point-là.
Oui, mais est-ce que vous en avez suffisamment pour devenir une vraie industrie, pour sortir, on va dire, de la PME et devenir une vraie structure industrielle?
Au niveau de ma stratégie, en fait, en l'occurrence, j'ai diversifié mes activités. Lanterne solaire, c'est une partie de mon cœur de métier. Et aujourd'hui, je sais que d'un point de vue rentabilité, j'ai de la diversification des activités et c'est là où j'ai diversifié les activités. Aujourd'hui, Africa Solar, en tout cas en l'occurrence la partie Mali, sur le long terme, je ne vois pas une industrialisation du produit. Clairement, je suis optimiste, mais réaliste. Ça reste une PME qui est autonome, qui arrive à avoir, avec les 6 salariés qu'on a aujourd'hui, qui se prennent en charge
la distribution. Mais pourtant, ce que vous faites est hyper en zone rurale essentiellement. Donc ça risque de mourir demain parce que vous ne l'avez pas industrialisé. Est-ce que vous n'allez pas le regretter
aujourd'hui? C'est vrai. Réflexion à avoir avec les deux autres associés que j'ai.
Docteur, on a le sentiment que la plupart de vous, vous êtes doués pour inventer et pour en faire une industrie. C'est les autres qui vont venir et après on va se plaindre en disant oui, ils nous ont tout mangé, mais peut-être qu'on n'était pas capable de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une vraie réflexion à avoir pour devenir industrie tout simplement et faire du Made in Africa à une grosse échelle?
Ce que vous dites est extrêmement important et c'est pour ça que c'est important qu'on soit tous ensemble ici. Parce qu'il y a les caïmans. Ce qu'on appelle les
crocodiles.
Les crocodiles, ils sont ces bouches ouvertes comme ça, ils n'attendent que pour happer.
Absolument.
Ils sont capables de venir l'attraper, lui donner, bon, voilà, 4 millions d'euros. Tu prends et puis on rachète.
Et puis voilà.
Ils sont contents, mais ils vont prendre ça, puis mettre dans le tiroir, et puis c'est fini.
Mais est-ce que vous pensez que l'industrie, c'est même le modèle africain?
Pourquoi pas? Mais on est dans le monde, c'est partout l'industrie.
Là, c'est un standard.
Le monde, il est grand, mais nous, les praticiens, on est en train de comprendre. En Afrique, le chemin, c'est pas de faire l'immense usine comme BMW et comme ça. Parce que la logistique, c'est vrai qu'on dit maintenant qu'on fait la zone de libre-échange. Si je produis des milliers de couveuses au Cameroun, en espérant les distribuer dans beaucoup de pays, je suis sûr que c'est un modèle qui ne marche pas. Je le vois tous les jours.
Oui, mais là, vous avez pensé peut-être petit, non? Parce que
non,
là, vous avez dit,
on peut penser les cas.
Il y a 1,2 milliard de clients potentiels.
Oui,
et vous pensez Cameroun, est-ce que c'est pas
l'industrie? Il est fixé quelque part. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est 50 ateliers en réseau.
Exactement.
C'est bon. Tout c'est bien, mais donc, il va falloir malheureusement que nous arrêtions parce que le temps n'est pas extensible, que vous pensiez business. Parce que c'est bien d'inventer, mais il y a un énorme marché africain, 1,2 milliard d'habitants. Organisez-vous comme vous voulez, puis que dans 3 ans, dans 4 ans, vous venez. On m'a mangé. Ils ont encore apporté leur impérialisme. Voilà. Peut-être qu'on sera responsable à ce moment-là. Merci en tout cas d'être venu en débattre.
Merci.
Bon courage dans vos inventions. On espère qu'on aura beaucoup de Made in Africa. Bon courage en tout cas. Le débat africain, c'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Journal.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
J'ai rencontré à Dakar le journaliste Maxime Domény. C'est le représentant pour l'Afrique francophone du GIJN, le réseau mondial du journalisme d'investigation. Avec lui, j'ai voulu savoir comment faire pour éviter que les forces politiques, les puissances de l'argent ou des soucis techniques empêchent des journalistes africains de faire un travail d'enquête.
L'atelier des médias avec Steven Jambeau.
Tout à l'heure, à partir de 11h10 TU.
RFI.
Radio France Internationale, il est 9h.